L'atelier politique avec Frédéric Rivière.
Bonsoir et bienvenue dans l'atelier politique. Le propos de cette émission est de ne pas s'arrêter à l'actualité immédiate, mais de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous arrive et à ce qui pourrait nous arriver. Et ce soir, nous sommes avec Pouria Amirshahi, députée écologiste de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Cette émission est enregistrée dans les conditions du direct. Nous sommes ensemble pour environ trois quarts d'heure. Vous allez donc avoir du temps pour développer vos idées. Et cette émission s'appelle l'atelier politique. Et je vais donc vous demander, comme je le fais à chacun de mes invités, quel est votre outil préféré ?
Mon appareil photo. J'en ai toujours un sur moi depuis très longtemps. Et au quotidien, je prends des photos. Et c'est pour moi un vrai outil de rapport au sensible, enfin de ce que je reçois, moi, en tout cas de sensible, et que j'ai immédiatement envie de prendre en photo, des gens, des individus, des paysages.
Ouais, et vous n'avez pas remplacé votre appareil photo par votre smartphone, comme non. Beaucoup de monde aujourd'hui.
Non, j'ai vraiment du mal. Le smartphone, je m'en sers pour des photos à la volée, vraiment quand c'est indispensable et que j'ai pas le temps de dégainer le mien, mais sinon j'ai toujours les miens avec moi, tous les jours.
Vous êtes né en Iran, Pouria Amirshahi. Vous êtes, je crois, arrivé en France à l'âge de 4 ans à peu près.
Ouais, c'est ça.
Vous avez quelques souvenirs de ces moments, le départ, l'arrivée ?
Non, une vieille image, mais je ne sais pas si c'est un souvenir reconstruit ou si c'est un vrai souvenir d'une scène avec une maison blanche et un petit chien. Et puis je vois par contre une scène à l'aéroport où je franchis un portillon. Je ne sais pas si, un peu comme dans le métro, donc là encore, je ne sais pas si je confabule ou s'il y avait vraiment des portillons en 76 à l'aéroport. Mais non, je n'ai aucun souvenir vivant, enfin, vivace de ma toute petite enfance.
Quel rapport vous avez gardé à ce pays qui est aussi le vôtre ?
Une langue, la cuisine, une transmission de mémoire aussi avec ma fille. Et puis évidemment ma famille.
Vous avez beaucoup de famille encore aujourd'hui là-bas ?
Oui, mon père qui est en Iran, des oncles, et puis des tantes qui sont elles au Canada, et des cousines qui sont en Angleterre, en Chine, voilà. Une diaspora des Amirshahi.
Vous avez été l'un des initiateurs du mouvement des frondeurs, ces députés qui se sont opposés à certaines orientations prises par François Hollande lorsqu'il était président de la République entre 2012 et 2017. C'est une position que non seulement vous ne regrettez pas, mais que d'une certaine manière même vous assumez avec une certaine fierté.
Oui, mais c'est intéressant cette question à ce moment-là, qu'elle soit posée à ce moment-là. Parce que le mouvement de la Fronde n'était pas simplement un rappel de François Hollande à ses promesses non tenues. C'est ce que souvent les journalistes dans l'actualité politique retenaient. C'était pas non plus un mouvement qui se voulait plus à gauche. Moi, je l'étais par rapport à François Hollande, mais c'était pas le sujet. Le vrai sujet, c'était un mouvement d'émancipation parlementaire, c'est-à-dire de parlementaires qui ne veulent plus être indexés sur l'exécutif. Et c'était la discussion et le point de friction principal, notamment avec Manuel Valls. Je me souviens parfaitement de cette discussion avant qu'il ne soit nommé, puisque je n'avais pas voté la confiance, qui était inédite dans la Ve République, pour un parlementaire relevant de la même majorité.
Oui.
Si je lui avais dit, si tu acceptes de remettre le fameux pacte présidentiel de François Hollande, c'est-à-dire le CICE, les fameuses baisses d'impôts, la politique de l'offre, pour aller vite, entre les mains du Parlement, qu'on en délibère librement, alors je voterai la confiance. Sinon, non. Et il m'a dit, je ne me départirai pas de cette feuille de route, ce sera de toute façon le CICE. Et ce jour-là, c'était mon premier mandat, j'ai pris conscience de l'importance qu'avait eu pour moi ma formation politique et des lectures de jeunesse, et notamment les plus importants qui éclairent la Révolution française, avec notamment la séparation des pouvoirs et tous les écrits de Montesquieu qui vont avec.
S'il n'y avait pas eu les frondeurs, peut-être que François Hollande aurait fait un deuxième mandat. Est-ce que ça n'est pas un scénario que vous auriez préféré à celui d'Emmanuel Macron ?
C'est pas moi qui empêche François Hollande de se représenter.
Non, mais quand je dis vous, je parle du mouvement des frondeurs.
Oui, mais, non, je ne crois pas une seule seconde.
Ça lui a quand même pas facilité la tâche.
Oui, mais disons que c'est François Hollande qui, à l'époque, décide très tôt de revenir sur des engagements qu'il avait pris et qui désarçonne un peu son électorat et qui nous désarçonne en même temps. Bon, je ne refais pas le bilan de ces années-là, mais je pense que François Hollande, sans doute parce qu'il fait des pas de côté tout à fait incompris, parce qu'il prend à rebours des engagements qu'il avait pris, en tout cas que les gens avaient perçus comme étant des engagements, se met lui-même dans une impasse. D'ailleurs, c'est ce qu'il reconnaît en ne se présentant pas. Et la meilleure preuve que je peux vous en donner, c'est que le 49-3 qu'il a utilisé contre sa majorité, alors quand même très massive, montrait qu'il était lui-même dans une impasse. C'était à l'époque sur la fameuse loi travail.
Ouais.
Et puis, il s'est coupé d'une partie aussi de l'opinion avec, à mon avis, le coup fatal qu'il a porté à son quinquennat, avec la déchéance de nationalité, qui était incomprise par énormément de gens.
À la fin de ce mandat de député, donc, qui était votre premier, vous n'avez pas souhaité vous représenter. Pour quelle raison ? Vous étiez déjà un peu là de la politique ?
Oui, c'est vrai. Même si j'avais aussi des questions de santé qui ouais. m'obligeaient à m'occuper de moi. Mais oui, fatigue, c'est vrai. Et puis j'avais besoin aussi sans doute de faire le bilan de toutes ces années d'engagement qui se traduisent par un président de gauche à l'époque, qui a une majorité à l'Assemblée nationale, a une majorité au Sénat, à la majorité des départements, à la majorité des villes, à la majorité des régions, avec le résultat que l'on sait. Et dans ces moments-là, il faut prendre un peu de recul. Et donc je suis retourné dans ma vie professionnelle, voilà, à d'autres aventures, tout aussi passionnantes, et me revoilà.
Vous aviez un vieux rêve, apparemment, mais vous, ça semble que vous ne l'ayez pas accompli. Vous aviez envie d'ouvrir une librairie ?
Oui, il y a très longtemps. Parce que amoureux du livre, j'ai grandi dans les livres. Je pense que les livres m'ont construit, à la maison comme à l'école. Et j'ai un faible qui m'a amené même à être expert de la chose pour la bande dessinée.
Ouais. Vous êtes passionné de bande dessinée. Vous avez d'ailleurs travaillé pour la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême.
Exactement.
Qu'est-ce que vous y faisiez ?
J'étais chargé d'une partie de la programmation culturelle et de partenariats, notamment à Paris, avec des institutions culturelles parisiennes.
Il y a une étape que vous avez passée, là. Vous avez aussi été journaliste. Vous avez dirigé le magazine Politis.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience ?
Alors, Politis est un super hebdo qui... très, de par son nom, évidemment, porté sur l'actualité politique, a des pages internationales remarquables, c'est pas assez su, et des pages culturelles aussi de grande qualité. Ce qui était intéressant dans la période, c'est que j'ai été à la fois directeur de presse, d'abord salarié, puis ensuite président à titre bénévole de la structure, mais aussi journaliste. Parce que j'ai été amené à faire des interviews, du reportage, des chroniques, des éditos. J'ai touché un peu à la panoplie complète, mais je ne suis resté que 3 ans. Donc on ne peut pas dire que j'ai fait une carrière dans le journalisme. Mais j'y ai découvert l'importance, en tout cas j'y ai touché de près et palpé réellement la matière de ce qu'est le journalisme libre, la presse libre. Parce que Politis, et d'autres, ce n'est pas le seul journal, est un média libre. Et je pense que dans la période, avec tout ce que l'on sait de la concentration des médias entre les mains de quelques-uns, on a besoin d'une presse libre.
Et cette nuance qui est parfois rappelée à l'occasion avec un peu de causticité par certains responsables politiques qui s'adressent aux journalistes en leur disant « vous, vous commentez, moi j'agis », vous l'avez éprouvé ça, cette différence ?
Bon alors là, je ne vais pas forcément être agréable avec tous les journalistes que j'ai côtoyés, y compris,
non, mais c'est pas grave.
Y compris à Politis. J'ai toujours trouvé qu'il y avait plus de stimulation intellectuelle, de défis... intéressant, intelligent, lorsque j'ai discuté avec des journalistes spécialisés, qui connaissaient leur matière. Ouais. Donc quand, par exemple, on discutait des droits et des libertés, quand j'étais député, mais c'était pareil ensuite, ou de la culture, puisque j'ai ensuite monté un projet culturel en Seine-Saint-Denis. Bref, lorsque je touchais un sujet précis et que je discutais avec des journalistes dont c'était la spécialité, je voyais que j'avais en face de moi des gens documentés, experts, qui en savaient parfois plus que moi. Les journalistes politiques... sont souvent à la surface. Et j'ai trouvé que, souvent, on s'arrêtait beaucoup plus à l'arrière-pensée supposée qu'à la pensée elle-même. Donc, quand vous dénonciez une idée, le premier réflexe, souvent, des journalistes politiques, c'est de se demander pourquoi on l'énonce. Pas quelle est l'idée. Et qu'est-ce qu'elle signifie en soi. Et donc, je trouve que, d'une certaine façon, le journalisme politique, pas tout le temps, pas partout, mais a quand même contribué aussi à donner une couleur assez médiocre de la politique. À contribuer tout autant que les mauvais comportements et, parfois, les baratins qu'on nous raconte.
Un dernier mot sur cet épisode de votre vie professionnelle. En tant que responsable politique, j'ai vu que vous n'aimiez pas le « off », c'est-à-dire ce que l'on dit aux journalistes à l'écart des micros ou des caméras, tout en expliquant que finalement on l'a dit sans le dire. Donc vous n'aimiez pas ça comme responsable politique. Et en tant que journaliste, vous aviez les mêmes réserves ?
Je ne me posais pas la question. En général, quand je discutais avec des personnalités politiques... Je leur demandais pas jamais si c'était du off ou pas. Je pense qu'elles-mêmes me précisaient, ça reste entre nous. Auquel cas, j'en tenais compte. Mais en général, je trouve qu'il faut faire simple. Quand on n'a pas envie de dire quelque chose, on ne le dit pas. C'est aussi simple que ça et on ne dit que ce qu'on a envie de dire.
On va en venir pour Yamir Chahi maintenant à votre regard sur la France d'aujourd'hui, la France maintenant. Et la France maintenant, c'est la nomination d'un nouveau Premier ministre. C'est François Bayrou qu'Emmanuel Macron a choisi. François Bayrou, maire de Pau, président du MoDem, ancien ministre de l'Éducation nationale, 3 fois candidat à l'élection présidentielle, 73 ans. Est-ce que c'est une personnalité avec laquelle vous pensez pouvoir travailler de manière constructive?
Il se trouve que moi je le connais François Bayrou, donc j'ai déjà été amené à m'affronter à lui. J'étais président de l'UNEF à l'époque, c'était en 94, donc ça remonte à 30 ans exactement. Et à négocier aussi ensuite sur la base d'un mouvement étudiant qu'on avait construit, qui était massif en 1995.
Il était ministre de l'Éducation nationale à
Exactement,
l'époque.
exactement, de Jacques Chirac. Bon, après, aujourd'hui, 30 ans après, François Bayrou, il est tributaire d'un objet politique qu'il a lui-même construit avec François Bayrou depuis 2017.
Avec Emmanuel Macron.
J'ai dit quoi?
Vous avez dit François Bayrou avec François
Ah
Bayrou,
oui.
peu
Quel
importe.
lapsus.
J'ai supposé que vous vouliez parler
Quel
d'Emmanuel
lapsus.
Macron.
Oui. Et la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est bon, c'est une impasse, c'est une scène assez désolante et pathétique de la vie politique française, à laquelle le président de la République a largement contribué, puisqu'il en est le principal responsable. Maintenant, François Bayrou est là. Il est nommé, lui, on n'a pas encore son gouvernement, on
Non.
n'a pas encore sa feuille de route. Donc, ce qu'on a fait, en tout cas, avec mes amis du groupe écologiste et social, c'est de poser quelques éléments sur la table. Et on veut savoir s'il y répond, sur le fond. En gros, est-ce qu'il va commencer à incarner un changement de ligne politique? Alors, ça, c'est une évocation.
Mais quel souvenir vous en gardez comme... Enfin, si vous en avez un souvenir précis, puisque vous l'avez dit, ça fait une trentaine d'années, donc même très exactement 30 ans. Mais les négociations, lorsqu'il était ministre de l'Éducation et vous, président de l'UNEF, syndicat étudiant, vous avez un souvenir précis de ces
Bon,
moments-là?
j'en ai plusieurs, mais...
Mais il vous a fait l'impression d'être un homme qui écoute, d'un
Oui,
homme
oui,
qui
oui, oui,
veut
oui.
trouver des compromis,
Oui,
des...
on fait jamais de compromis à froid. Donc, il y avait derrière moi, quand je venais à la table des négociations, je sortais d'une manifestation, il y avait quand même 500 000 étudiants. Donc, j'imagine que si le nouveau Front populaire veut se faire entendre de François Bayrou, il faut quand même se rappeler à lui et pas simplement autour d'une table. Néanmoins, il s'est écouté. Et je me souviens très bien qu'on avait obtenu des avancées à l'époque, oui.
La France insoumise a immédiatement après l'annonce donc de la nomination de François Bayrou, la France insoumise a annoncé qu'elle censurerait le Premier ministre. En revanche, et vous l'évoquiez à l'instant, les autres composantes du NFP semblent vouloir attendre de juger sur pièce. Est-ce que vous diriez qu'au fond c'est une bonne chose pour la France si cette espèce de pacte de non-censure peut tenir et peut permettre d'éviter que l'instabilité ne se prolonge?
Bah, c'est une bonne chose si il y a une feuille de route qui répond à quelques urgences. Un problème de recettes, quand même. Il faut bien répondre au déficit. Donc, est-ce qu'il est prêt à être un peu plus audacieux en matière de politique fiscale? Il y a des enjeux écologiques, évidemment. Mais disons que c'est pas qu'on va juger sur pièce. C'est que déjà, on va essayer d'attendre de voir quel est son gouvernement, quelle est sa feuille de route. Et surtout qu'il s'engage à ne pas utiliser le 49-3. S'il s'engage à ne pas utiliser le 49-3, il n'y a pas de raison qu'on le censure a priori. Il n'y a aucune raison, puisque ça veut dire qu'il s'en remet à la délibération du Parlement. C'est pour ça que je vous évoquais qu'à l'époque, déjà, sous François Hollande et Manuel Valls, la question du rapport au Parlement était essentielle. Et la démocratie française est une démocratie sans doute la plus malade des démocraties européennes. Parce qu'elle a ce surplomb présidentiel qui écrase tous les autres
Et qu'elle
pouvoirs.
n'a pas cette culture des coalitions non plus.
Oui, mais justement, donc puisque François Bayrou se construit une légende de l'homme centriste, de l'homme du dialogue, qui est celui qui est tout à fait en phase avec cette culture parlementaire, bah, qu'à cela ne tienne, on va voir. S'il est dans les mains du président Emmanuel Macron, ce que je crois a priori, ça n'ira pas très très loin. Donc nous, on va faire les choses assez simplement. Il va faire son gouvernement. Il va dénoncer une feuille de route et une méthode.
Mais alors, il y a une expression qui est très à la mode qu'on entend à tout bout de champ en ce moment, c'est les lignes rouges. Vous dites qu'il va faire son gouvernement. Vous avez des lignes rouges, vous, pour la composition du gouvernement?
Ah bah oui, c'est sûr que s'il se tourne à peu près dans le même périmètre que le fameux socle, c'est-à-dire vers la droite LR, qui elle-même parle à l'extrême droite,
Oui.
l'affaire est entendue en 30 secondes.
Par exemple, Bruno Retailleau à
Par
l'intérieur,
exemple, oui,
ça
voilà.
serait une ligne rouge?
Bah oui, évidemment. Le type est arrivé. La première déclaration, c'est contre l'État de droit. Et il a enfilé toutes les perles réactionnaires les unes après les autres en 3 mois. Franchement, ce n'est pas ce qu'on attend d'un ministère de l'Intérieur qui, à mon avis, a d'autres chats à fouetter. Il y a bien des sujets qui peuvent réunir le pays, le rassembler, parce que le pays en a besoin, plutôt que de le soumettre à chaque fois à une irritation permanente. Tout, c'est les questions identitaires, les questions sécuritaires, une obsession de l'extrême droite. On voit bien que, d'ailleurs, Retailleau était le signe, le symbole de l'ombre portée du Rassemblement national dans toute cette affaire. Donc il faut rompre avec ça. Au fond, mais votre question, elle est intéressante. La question de la ligne rouge, elle a été posée le 7 juillet par les Français. C'est les Français qui, à 70%, ont dit « on ne veut pas du Rassemblement national ». On ne veut pas de ces thèses-là. Et ce qui a amené les électeurs de droite à voter pour des électeurs du centre de la gauche, et inversement.
Oui, mais bon, ils l'ont dit sans donner de majorité à la gauche non plus.
Certes,
c'est toute la complexité de la situation.
Ah bah, c'est pas simple. Ouais. Mais au moins, il y a cette clarté-là. Ouais. Il y a encore 70% des citoyennes et des citoyens de France qui ne veulent pas du Rassemblement national. Ça veut donc dire que c'est pas simplement qu'ils veulent pas de Le Pen au gouvernement. Ils ne veulent pas de ces thèses qui nous divisent, qui nous abîment. Donc ne les appliquons pas, ces thèses. Déjà, ça ouvre le champ à une discussion plus apaisée.
On va revenir sur tout ça dans un instant. On va marquer une petite respiration musicale d'abord. Alors c'est vous qui avez choisi ce que nous allons écouter. Il s'agit d'un Stabat Mater Dolorosa. C'est vrai que quand on entend Stabat Mater, on pense immédiatement à Pergolèse ou à Vivaldi. Eh bien, pas du tout, là. Il s'agit d'un artiste camerounais, Francis Bébé.
Stabat Mater Dolorosa. Stabat Mater Dolorosa, Nyangwamuna Maria Tem Nandutu Babo Momuna Na Yo Awo Nandutu Stabat Mater Dolorosa. Stabat Mater Dolorosa. Your sorrow speaks to mankind, telling of great love. En moi ta douleur résonne comme un cri d'amour, et ce cri me dit d'aimer toujours, même les gens qui sont différent de moi. I will tread in your steps until I reach the goal, and I know the goal is love. It says I must never fail to love even people who are not just like me. I will pursue my search until I reach the goal, and I know the goal is love. Je ne t'oublierai jamais, Marie. Stabat Mater Dolorosa. Stabat Mater Dolorosa, Nyangwamuna Maria Atenandutu, Babo Momuna Nanjo Awonandutu. Stabat Mater Dolorosa. Stabat Mater Dolorosa. The world needs you now, Mary, please give us your love. Le monde a besoin.
Stabat Mater Dolorosa, donc par le chanteur artiste camerounais Francis Bébé. C'est un choix, c'est vrai, qui est étonnant. Personnellement, je ne connaissais pas. C'est joli. Pourquoi vous l'avez choisi?
Parce que c'est joli.
Oui,
c'est...
Mais enfin, peut-être j'ai rencontré... ça va au-delà, je ne sais pas.
Non, mais parce que c'est un artiste que j'ai rencontré par le hasard de la vie, enfin, cette chanson-là. Et il se trouve que moi, je suis très intéressé par les langues. J'ai beaucoup travaillé sur la francophonie, déjà quand j'étais député. J'ai
monté là, on en parlera d'ailleurs.
Un campus francophone en Seine-Saint-Denis. Et ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre les langues. Et lui parle, enfin, chante et écrit dans sa langue natale, mais aussi en français, en anglais. Il jongle avec tout ça.
Ouais.
Et c'est d'un cosmopolitisme puissant et moderne. Je trouve que la mélodie est magnifique.
Merci d'être avec nous. Vous écoutez l'Atelier politique, émission réalisée par Mathias Golshani. Alors, le 4 mars 2016, pour Yamir Chey, dans un entretien au quotidien Le Monde, vous annonciez votre départ du Parti Socialiste et vous le justifiez dans ces termes. Je vous cite, je quitte le PS et le monde des partis en général, rhizome d'un système institutionnel à bout de souffle. Ils sont devenus des machines électorales sans grande conviction, sans promesse d'avenir heureux pour le pays. Vous êtes donc redevenu député à l'occasion des élections législatives de juillet dernier, consécutives évidemment à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Vous siégez aujourd'hui avec les écologistes. Pourquoi revenez-vous précisément au moment où, plus que jamais sous la Ve République, nous sommes dans un quasi-régime de parti ?
Les circonstances, le hasard, lorsque Emmanuel Macron décide de dissoudre, je reçois 2 jours avant le dépôt de liste un coup de téléphone. En l'occurrence de Cécile Duflot qui rangeait des voitures et puis de Marine Tondelier me demandant si j'étais prêt à repartir à la bataille. Ouais. Mettez-vous dans le contexte, à l'époque on est persuadé que Jordan Bardella est aux portes du pouvoir. Sincèrement, tout le monde est pris en apnée par le geste présidentiel qui consiste à dissoudre. Ce qu'on me dit en tout cas à ce moment-là, c'est qu'on a besoin de gens capés, qui ont un peu d'expérience et qui font consensus à gauche. Mmh. Et c'est vrai que lorsque mon nom est arrivé sur la table, toutes les formations du DFP ont dit « nous, ça nous va ». J'en suis flatté au demeurant. Et donc je me suis retrouvé là, mais ce n'était pas du tout en lien avec les partis. D'ailleurs, je ne suis pas membre d'un parti.
Oui, oui.
Mais c'est vrai que vous avez raison de dire que c'est le paradoxe de la période, parce que les partis que j'ai critiqués, et dont j'estime qu'il faut qu'ils fassent encore beaucoup de travail sur eux-mêmes, ont eu cette vertu exceptionnelle que de permettre, en tout cas, au nouveau Front populaire d'exister et de faire barrage. Ce n'est pas les seuls, d'ailleurs. Enfin, ça a cette vertu. Donc je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je dis juste que les partis, j'avais dit à l'époque qu'ils étaient fatigués et fatigants, gare à ce qu'ils ne redeviennent pas un repoussoir pour des Français qui sont là en attente de solutions. C'est tout le défi auquel ils sont confrontés.
Au moment de votre retour en politique, en juin dernier, donc vous aviez accordé une interview au magazine en ligne Les Jours. Et on vous demandait, de manière très ouverte, quel regard vous portiez sur la politique de ces 7 dernières années, donc sous Emmanuel Macron. Et vous répondiez ceci. Un regard éloigné et inquiet, nous avons assisté à la naissance et à la mort du macronisme, une aventure politique qui démarre par une certaine idée de la modernité, qui a fait illusion et qui patauge désormais dans les eaux boueuses de la réaction. Mmh. On peut dire que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Qu'est-ce que vous voulez dire quand on dit la réaction, c'est réactionnaire. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire quand Macron patauge dans les eaux boueuses de la réaction ?
Oui, son dernier acte, c'est quand même la loi immigration. Dont je rappelle qu'elle a été adoubée par Marine Le Pen, en disant même qu'il y avait une conversion du macronisme au lepénisme. Ce sont quasiment ces termes. Donc je suis peut-être dur dans les mots, mais elle n'a fait que confirmer ce que je ressentais. Et Macron part de loin. Il y a l'imposture de départ, mais au moins il y avait cette illusion de modernité, c'est vrai. Ce fameux en même temps, qui profitait d'ailleurs de la crise des partis et de l'expérience de François Hollande qui avait mal fini. À l'époque, il était sur un discours. D'ailleurs, regardez bien les résultats électoraux. Il fait beaucoup de voix en banlieue, dans les quartiers populaires, Macron, à l'époque. Donc, il y a une promesse de modernité. Il y a une promesse d'inclusion. Alors, sur un tout autre registre que, par exemple, la France insoumise, qui fait aussi aujourd'hui beaucoup de voix dans les quartiers populaires, et sans doute parce que son message était différent. En gros, il disait quand les jeunes n'ont pas de boulot, ils créent le leur, donc ils créent des boîtes. Donc, c'était cette fameuse Startup Nation. Et donc, il surfait sur quelque chose qui, quoi qu'on en pense, relevait plutôt de l'optimisme, de la croyance en l'après. Mmh. Il a, 7 ans après, sombré dans la politique la plus à droite, c'est-à-dire à la fois économiquement. On le voit sur la politique fiscale, où il ne bouge rien. Même le MoDem et même Barnier, sur certains aspects, était plus raisonnable qu'il ne l'a été. Et sur les questions identitaires et sécuritaires, c'est un virage à droite.
Oui, mais quand vous dites les eaux boueuses de la réaction, vous n'avez pas l'impression de forcer un peu le trait? Parce que si on déplace le curseur de cette manière, qu'est-ce qu'il y a au-delà des eaux boueuses de la réaction après?
Il y a Le Pen. Après, il y a Le Pen. Après, il y a le RN.
Donc, il n'a pas été jusque-là.
Bah, il est
elle s'est reconnue, enfin, quand je dis elle, Marine Le Pen, s'est retrouvée pour partie dans cette loi immigration. Pour autant, vous ne diriez pas qu'Emmanuel Macron est devenu lepéniste?
Non, je ne dirais pas qu'il est devenu lepéniste, mais je dirais que. Mais par contre, je constate, comme vous, j'imagine, qu'il a gouverné pendant 3 mois avec la bienveillance de Le Pen, jusqu'à ce que d'ailleurs elle-même le lâche. Mais tout le monde a bien compris qu'il en était dépendant. Il faut être deux pour que ça marche. Donc il a accepté lui-même cette équation. Il avait une autre possibilité, Emmanuel Macron, quitte à être minoritaire, puisqu'il est minoritaire, c'est de dire ce qu'il sentait toujours à ne pas vouloir faire. Je donne la possibilité au nouveau Front populaire de me proposer un gouvernement, et qu'à cela ne tienne, on verra. Il a préféré d'abord voir avec l'extrême droite, c'est ce qui est terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce que la séquence électorale de laquelle on part, c'est le 7 juillet. Et si personne n'a de majorité, il y a au moins une clarté dans cette affaire-là. C'est que personne ne voulait des idées de Le Pen. Or, il les installe d'une certaine façon.
Alors, dans cette même interview avec le magazine Les Jours, toujours à cette question, quel regard vous portez sur les 7 dernières années, vous répondiez aussi, j'ai vu aussi que la gauche et les écologistes n'ont pas cultivé la très intéressante dynamique unitaire de la NUPES. La NUPES qui est donc devenue le NFP. À qui la faute si cette intéressante dynamique n'a pas été cultivée?
Bon, d'abord parce que tout le monde est indexé sur les institutions et les calendriers électoraux qui en découlent, dont la présidentielle est le plus important, et que évidemment ça fabrique des concurrences exclusives. Regardez ce qu'a produit la NUPES puis le NFP. Je dis pas que c'est parfait, hein, loin s'en faut. Il y a sans doute des choses à revoir, mais c'est un espoir pour des millions de gens. Qui s'en sont saisis au moment de la dissolution, ils se sont saisis du nouveau Front populaire. Parce que je pense, comme beaucoup de gens, que les Français veulent de l'unité, veulent du rassemblement, veulent qu'on se réunisse.
Mais vous avez été proche à une époque de Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Vous avez fréquenté les mêmes clubs de pensée, les mêmes cercles que lui. C'était il y a un certain temps maintenant. Comment vous analysez son... Et quel regard vous portez aussi sur son cheminement politique et idéologique?
Il le dit, hein. Lui, il est dans une conflictualité et un narratif qui orchestre presque de façon romanesque l'affrontement final.
Oui, mais il y a des positions sur lesquelles il a beaucoup évolué, voire fait un virage à 180 degrés, par sur exemple. La laïcité par exemple. Ce qu'il disait des femmes voilées il y a une vingtaine d'années, je ne sais même pas si c'est si vieux d'ailleurs, et ce qu'il en dit aujourd'hui, ça n'a absolument plus rien à voir.
Alors moi, c'est pas
quand il disait par exemple que les femmes voilées pratiquaient une forme d'auto-stigmatisation. C'est des propos qu'il a tenus. Aujourd'hui, il ne dit absolument plus ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous pensez de ce cheminement-là.
Bon, d'abord, Mélenchon, c'est un être complexe. Parce que c'est un mec intelligent, c'est quelqu'un d'intelligent qui pense,
qui est érudit. Personne ne dit le contraire.
Donc c'est une pensée qui est complexe. Lui donne sans doute à voir un bloc, c'est ce qu'il veut cultiver. Et donc ce n'est pas sur ce point-là que je le critiquerai. Je pense que la République laïque doit se targuer de la multitude de nos identités. Ouais. Je pense que ce qui permet l'universel, c'est d'accepter déjà le réel de nos identités singulières. En revanche, il y a d'autres sujets sur lesquels j'ai des accords profonds avec lui. Moi, je ne le prendrai pas sur ce rapport à la laïcité, qui est au contraire une vision, j'estime, assez moderne de la France telle qu'elle est, en tout cas de la France des grands ensembles urbains.
Oui, mais alors, je vais vous interrompre une seconde, parce que sur la laïcité, alors ça c'était en 2017, vous répondiez aux questions du Bondy Blog, et vous disiez... La France est cosmopolite de fait, et c'est tant mieux, que ça ne pèse pas à tous les tenants d'une laïcité dévoyée parce qu'elle est devenue revancharde, tant pis. Qu'est-ce que vous vouliez dire?
Ben exactement ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire que Mélenchon, lui aussi, était à l'époque, selon moi, dans cette...
Laïcité dévoyée?
Bien sûr.
Et pourquoi vous dites qu'elle est devenue revancharde, la laïcité?
Parce qu'elle a été... utilisée.
C'est-à-dire, vous la voyez vraiment comme un instrument de...
Absolument pas. Pas la laïcité. L'instrumentalisation qui en est faite par le camp de la réaction.
Contre les musulmans, c'est ça?
Bien sûr. C'est manifeste. Ça ne veut pas dire que la laïcité est un projet politique achevé. Il est toujours l'objet de cibles, de critiques, y compris en France, par des ennemis, des adversaires. Mais la coexistence des identités, l'acceptation de la religion des autres, qui est le fondement quand même de la laïcité, est mise à mal par la méfiance croissante qui est entretenue dans certains discours politiques à l'égard de nos compatriotes maghrébins. Et tout ça est lié à un contexte géopolitique qui a vu l'extrême droite identitaire, pas qu'en France hein, d'ailleurs, progresser, sans doute accélérer sa croissance après le 11 septembre 2001. S'est raffermi encore plus en France après les attentats de 2013 et de 2015, et vient évidemment sert de d'habillage à la doctrine de l'extrême droite. Mais la laïcité, ce n'est pas la laïcité en soi qui est un problème. Au contraire, je cultive, je la chéris, je la souhaite, et je pense qu'elle n'est pas achevée. C'est son instrumentalisation.
Vous étiez, pour Yann Merchaï, l'un des partisans du non, comme Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, lors du référendum sur la Constitution européenne en 2005. Le non l'avait emporté assez largement, près de 55%. Mais 2 ans plus tard, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, fera adopter le traité de Lisbonne, qui reprendra l'essentiel du texte qui avait donc été rejeté par les Français. Est-ce que vous pensez que, on est bientôt 20 ans plus tard, est-ce que vous pensez que cet épisode soit à l'origine d'une fracture politique en France qui n'est toujours pas résorbée?
Oui, totalement. Totalement. La réponse est dans la question. À partir du moment où vous appelez les citoyens aux urnes et que vous piétinez ce résultat, il ne peut pas se produire autre chose qu'une crise politique. Ce n'est pas possible. Et d'une certaine façon, ce sentiment-là de décision prise à rebours de suffrage pourtant exprimé n'a cessé de grandir. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vit un peu aujourd'hui, même si c'est beaucoup plus confus, qu'il n'y a pas de majorité claire, etc. Mais on voit bien qu'il y a une forme de résignation démocratique, en tout cas de grande fatigue, lorsqu'on a le sentiment qu'après avoir voté, qu'après avoir manifesté, ou même regardé pendant la période des Gilets jaunes, il y a eu les cahiers de doléances. Pour ceux qui les ont lus, il y a des choses magnifiques qui sont écrites. Est-ce qu'on sait qu'il y a moins de 2%, ou peut-être 5%, de ces écrits qui sont innombrables, hein, qui portent sur l'immigration? Il n'y a que ça. Tout le reste, ce sont des questions sociales, des questions culturelles, des questions de vie quotidienne. Il y a des travaux remarquables qui sont en train d'être faits pour permettre leur accès. D'ailleurs, je rappelle qu'Emmanuel Macron avait promis qu'ils soient accessibles, ces cahiers de doléances. Enfin, vous voyez bien que lorsque vous donnez la parole aux gens, ils l'apprennent. Et lorsqu'ils l'apprennent et que vous n'en tenez pas compte, que voulez-vous que ça produise d'autre que du chaos?
On va évoquer dans un instant la situation internationale. Une toute petite question avant cela, et avant d'ailleurs une page musicale. Si une élection présidentielle devait avoir lieu avant l'échéance, c'est-à-dire avant 2027, et même dans un avenir assez proche, quelles sont d'après vous les forces politiques qui seraient prêtes?
Aujourd'hui, Le Pen est prête, Mélenchon est prêt, et c'est à peu près tout.
Voilà. Donc on se retrouverait dans une configuration qui est attendue et redoutée.
Ah oui, moi je ne souhaite pas cette confrontation-là. Je ne la souhaite pas. D'abord parce que je ne suis pas sûr que la gauche gagne à la fin. Ensuite parce que j'estime que d'ici 2 ans, il y a peut-être, en tout cas c'est ce que je souhaite, des choses à obtenir pour améliorer la vie des gens. Parce que si on est suspendu à cet affrontement final qui est un peu raconté, référence BD, comme un manga, vous savez, le combat final épique à la fin. Tout ça, c'est de la... Comment dire, c'est du fantasme. Mais ça ne se fait pas à l'avantage de la population et des gens. Ça s'appelle en plus... ce n'est rien d'autre qu'une crise... absolue, là. Ça veut dire qu'on est vraiment dans ce que Mélenchon a lui-même prédit. Hein. À la fin, ce sera eux et nous. A-t-il dit. Je réponds à votre question. Je ne vois personne, en tout cas, je ne vois pas d'individu prêt aujourd'hui. Après, il y a des gens qui ont envie d'être président de la République. On en connaît plein. Gabriel Attal. Je vous fais la liste. Ouais. Mais comme force politique organisée, il y a le NFP. Et si le NFP est en capacité de proposer un candidat pour la présidentielle de 2027, c'est une autre affaire. Et on va me dire, oui, mais C'est pas possible parce que c'est pas les mêmes familles, les mêmes sensibilités. Alors qu'on m'explique pourquoi on s'était mis d'accord sur un nom pour être à Matignon, on serait pas capable de se mettre d'accord sur un nom pour aller à l'Élysée. J'aimerais bien avoir la réponse à cette question.
Donc Lucie Castet à l'Élysée. Non, mais c'était une plaisanterie.
C'est pas un nom, hein,
oui, je veux dire. J'entends bien. On va ouvrir une nouvelle page musicale, et c'est toujours vous qui avez choisi ce que nous allons écouter. Il s'agit de Shilet Layani. Je suis pas sûr de très bien le prononcer, mais enfin, voilà comment je peux le dire. Je vous laisse peut-être donner quelques précisions sur ce titre et sur parce que vous m'avez dit je veux cette version précise.
Oui, je l'ai entendu à Alger pour la première fois. Ouais. Non, à Oran.
Alors au départ, c'est une chanson espagnole.
Exactement, c'est la fameuse chanson « Quesas, quesas, quesas ».
Ouais.
Je ne l'ai pas reconnue immédiatement à la mélodie, ouais. Mais quand on me l'a fait écouter, je l'ai trouvé magnifique. C'est dans un festival qui s'appelle Les Orientales, qui est assez régulier en Algérie. Et cette chanson-là a été pour moi un coup de cœur immédiat.
C'est un titre qui a été repris par de nombreuses vedettes, femmes et hommes d'ailleurs, voilà, dans le monde arabe.
Mais cette version-là, je la trouvais très belle, très sensuelle. Ouais. Et il se trouve que c'est parce que je sifflais Kessas, qu'un ami me dit « Écoute ça ». Je n'ai pas reconnu immédiatement, mais j'ai trouvé ça beau.
Je partage le sifflage avec vous. Et je dois dire que je suis allé écouter, moi, toutes les versions disponibles sur les applications musicales. Et je trouve en effet que c'est sans doute la plus jolie interprétation. On va écouter. Orientales, enfin c'est le festival qui s'appelle Les Orientales, la chanson c'est
Shilet Layani.
Layani, c'est vivant, c'est charmant, joli choix.
Oui, méditerranéen.
Nous allons revenir pour Yamir Chahi au monde, le monde aujourd'hui, le monde maintenant, et bien évidemment nous allons commencer avec la Syrie. Le régime dynastique El-Assad est tombé en moins de 2 semaines face à l'offensive de la coalition Hayat Tahrir al-Sham, dirigée par Abu Mohamed al-Julani. La chute de Bachar el-Assad est à peu près unanimement saluée comme un immense soulagement. Mais la suite des événements ne rencontre pas la même unanimité. Il y a ceux qui veulent croire que les islamistes qui dominent cette coalition ont évolué, en quelque sorte, ont évolué favorablement, qu'il y a chez eux une volonté de réparer et d'apaiser le pays. Et il y a ceux qui nourrissent plutôt les plus grandes inquiétudes sur leurs réelles intentions et qui redoutent, au fond, l'instauration d'un régime théocratique, en quelque sorte. De quel côté penchez-vous ?
J'essaie de ne pas spéculer, je le fais avec les éléments.
Non, mais ce n'est pas forcément spéculer, mais analyser, anticiper, gouverner, c'est prévoir.
Tout est possible. Donc je pense qu'il faut d'abord prendre acte de ce qui est dit par le nouveau dirigeant, qui essaye, en tout cas verbalement, de donner tous les gages d'une approche raisonnable du pouvoir. On va dire ça comme ça. Donc, il faut prendre acte de ça. Ce que devrait faire la diplomatie française, c'est de donner tout de suite des signes à la société civile de Syrie, à ses composantes, car il en existe malgré que Assad ait tâché méticuleusement de les détruire, qu'il y aura de l'aide au développement, qu'il y aura de la solidarité. Et il y a aussi un autre enjeu qui pèse, c'est la paix à côté. Tout ce qui nourrit la conflictualité au Proche et au Moyen-Orient, et en particulier ce que fait Netanyahou à Gaza et au Liban, est hautement inflammable. Et je ne vous parle même pas du conflit précis et de ce que fait Netanyahou là-bas. Je dis que rien que l'existence de ce foyer de guerre abominable qu'a engagé l'armée israélienne à Gaza est évidemment une machine à nourrir les pires idéologies.
Mais précisément dans ce puzzle régional, en quelque sorte, ce qui se passe en Syrie, selon vous, peut avoir quelles conséquences géopolitiques ?
Il faudrait plus que quelques minutes. D'abord, l'essentiel a été dit, c'est-à-dire que c'est un affaiblissement de l'Iran. On parle de la géopolitique et d'un régime
qui avait commencé avec les attaques ciblées, les attaques au beeper là contre les responsables du Hezbollah.
Tout à fait. Donc c'est un allié et pas des moindres de l'Iran qui tombe. Ouais. Donc ça, c'est une première conséquence. La deuxième conséquence, parce qu'elle est géopolitique aussi, c'est de voir quels sont les mouvements de population qui vont se créer dans toute la bande qui va de la Syrie au Liban à la Palestine. Ça, c'est pas non plus un petit sujet. La première des choses à faire, coûte que coûte absolument, c'est de tout faire pour suivre les recommandations onusiennes en particulier pour qu'il y ait la paix maintenant à Gaza. C'est vraiment, si on veut pouvoir aider les Syriens à se sortir de 54 ans de dictature et du risque fondamentaliste islamiste, hein, c'est ça dont on parle, alors il faut hiérarchiser les combats et commencer déjà par le fait de stopper la guerre à la frontière et donner sans doute tous les gages de soutien, tant qu'il y a des engagements démocratiques qui sont pris par le nouveau régime, au développement de la Syrie. Mais c'est quoi les gages ? C'est un gage en faveur de la démocratie, d'abord, qu'il y ait des élections rapidement organisées, qu'il y ait la reconnaissance du pluralisme et du pluripartisme, que les droits fondamentaux tels que reconnus par les Nations Unies soient respectés également. Bon, voilà, mais je ne sais pas comment on sort de 54 ans de dictature en 24 heures. Donc je trouve qu'il y a des injonctions un peu faciles à énoncer, mais pour un peuple tout entier qui va se découvrir dans une démocratie, dans l'inconnu, ça peut être d'une créativité magnifique, comme ça peut être redoutable pour tout le monde. On ne sait pas à cette étape. En revanche, ce que je sais, c'est qu'on paye aussi d'avoir cassé l'élan du printemps arabe de 2011. Parce que le printemps arabe de 2011, c'est ça qu'on vit, c'est aussi une queue de comète.
Mais qui a cassé le printemps arabe ?
Assad lui-même, d'abord. Les Russes, sans doute, aussi.
Oui, beaucoup. Mais vous parlez de Syrie, spécifiquement, je crois, parce qu'il y a eu tout un mouvement de printemps arabe. Je pensais que vous généralisiez.
Ah non, mais c'était dans la même époque. Ouais. Ça s'est traduit par un processus démocratique, on en pense qu'on veut, en Tunisie. Et ça s'est traduit par le retour à l'autorité ferme. En Égypte et par Assad maintenu au pouvoir en Syrie.
Est-ce que le sort des Kurdes de Syrie vous inquiète ?
Oui, beaucoup. D'autant qu'on leur doit énormément. Ils se sont battus pour nous contre Daesh. Et se battre contre Daesh, c'était pas simplement sauver leur peau, c'est sauver la nôtre aussi. Et on voit bien comment Erdogan veut profiter de la crise en Syrie pour s'approprier un territoire, mais aller au-delà, parce qu'il y a quand même derrière une idéologie d'extermination des Kurdes. C'est ça le sujet. Donc il faut faire attention, il faut protéger les Kurdes. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas construire quelque chose de solide dans un environnement qui est un brasier. Donc il faut vite être déterminé et s'en donner les moyens à la paix, à un cessez-le-feu, pour pouvoir s'atteler au plus urgent, c'est-à-dire la reconstruction de ce pays.
Dans à peine plus d'un mois, le 20 janvier, Donald Trump va s'installer dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Est-ce que vous pensez que, à l'égard de toutes ces situations incandescentes sur le plan géopolitique dont on vient de parler, l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis peut être vraiment une nouvelle donne ?
Oui, elle l'est déjà. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, alors je vais employer des grands mots, mais les fascistes occidentaux, et européens en particulier, ont désormais un chef très puissant en la personne de Donald Trump. Puissant parce que président des États-Unis, et puissant parce qu'il a Elon Musk comme allié, qui n'est pas une petite affaire. Elon Musk étant quand même à la tête de capacités technologiques inouïes. De l'autre côté, on a les Russes, les Chinois et d'autres qui vont se réorganiser. Et au milieu de tout ça, on est très faible. D'abord parce que dans notre propre continent, qui est quand même censé être adossé à un rêve, le rêve européen, on a des capitales indexées sur Trump. Ça, c'est quand même un premier sujet. Et quelques autres sur Poutine. Et la faiblesse qui est la nôtre, surtout la française, actuellement, avec une vie institutionnelle instable et
une perte d'influence en Europe.
Manifestement. Et c'est un problème, parce que la France se doit d'honorer son rang. Je ne dis pas ça par prétention au regard d'autres pays ou d'autres nations, mais parce qu'elle a une place au Conseil de sécurité de l'ONU, ouais. Parce qu'elle a encore une capacité d'influence, et puis surtout parce que c'est un État qui, comme les autres, ne doit pas être le dernier domino qui tombe. Donc, il y a un enjeu qui n'est pas un enjeu de politique intérieure seulement. Il y a un lien entre votre question de départ et celle qu'on a en cette fin d'émission, qui est qu'une des raisons pour laquelle il faut que absolument le Parlement puisse s'engager sereinement dans des travaux qui garantissent une stabilité pour le pays, c'est aussi qu'il y a un contexte géopolitique très incertain. Et je préfère que ce soit au Parlement que cela se passe, plutôt que dans les mains d'un homme et un seul, en l'occurrence le président de la République, qui a tous les pouvoirs et qui manifestement en fait n'importe quoi.
On va dire un petit mot, on arrive au terme de l'émission, mais comme je vous ai dit qu'on l'évoquerait, je veux tenir parole, c'est la francophonie, vous avez travaillé sur le sujet, vous aviez déposé un rapport en 2014, qui avait, d'ailleurs avait été adopté à l'unanimité par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Ce rapport, vous l'aviez intitulé « Pour une ambition francophone », et vous y défendiez l'idée d'une francophonie interculturelle et non franco-centrée. Qu'est-ce que ça veut dire une francophonie non franco-centrée ? Est-ce qu'on peut dissocier la francophonie de la France et de sa langue ?
Elle l'est déjà. Il y a plus de locuteurs francophones en dehors de la France qu'en France. Ça veut dire que c'est une langue et mille cultures. Quand vous êtes francophone du Sénégal ou francophone du Québec ou francophone du Liban, vous n'avez pas la même histoire, le même roman national dans la tête. Vous n'avez pas les mêmes cuisines, vous n'avez pas les mêmes saveurs, vous n'avez pas la même culture. Et la richesse de l'espace francophone, c'est l'interculturalité, c'est-à-dire la rencontre et le dialogue permanent entre des Noirs, des Blancs, des Latins, des Maghrébins, des Américains, Québécois, des Européens, Belges. Et cette francophonie-là existe en Seine-Saint-Denis, par exemple, en France. Vous avez des territoires magnifiques en France qui voient la langue française s'enrichir d'autres accents, d'autres mots. Et c'est ce qui fait que c'est une langue vivante. Sinon, la française serait une langue morte. Ce qui fait que le français est une langue vivante, c'est parce qu'elle s'enrichit au contact d'autres locutions, d'autres langues. C'est ça qui fait la beauté de la francophonie. Et j'ai trouvé que le pari de Villers-Cotterêts, qui a, au demeurant, j'invite vos auditeurs à y aller, un très beau parcours autour de la langue, a néanmoins un problème dès le départ, c'est qu'il proclame la centralité du royaume de France, c'est quand même le château de François Ier, dans la francophonie. Je pense qu'il eût été peut-être symboliquement plus moderne, plus pertinent de le construire dans un endroit plus cosmopolite par la rencontre des cultures autour d'une langue.
Merci pour Yamir Chahi.
Merci à vous.
Merci d'être passé à l'atelier politique. Cette émission est à retrouver sur le site internet de RFI ou sur l'application Pure Radio. Bonne soirée, à la semaine prochaine.